Alors, ce projet de Notre-Dame, il date de 74, de même 73. La ZAD, la zone d'aménagement différé, a été créée en 74. Depuis, il y a eu des hauts, des bas. On en parle à chaque élection, on en parlait. En 2004, il y a eu le débat public, un grand débat public, dans lequel on a dit c'est Notre-Dame-des-Landes ou Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'était un peu pipé au départ. Dans lequel on n'a pas eu le droit de proposer des alternatives ou des solutions alternatives. Et on dit non, non, vous vous présenterez pendant l'enquête publique. Donc après le débat public, 2 ans après, il y a eu l'enquête publique. Et là, bah non, il est trop tard, il fallait le présenter pendant le débat public, quoi. Donc on s'est un peu fichu de nous. Et puis, après l'enquête publique, c'est déclaré d'utilité publique. Il y a une DUP qui a été déclarée en le 8 février 2008. Et depuis, donc, on est en sursis encore plus qu'avant, dans la mesure où il y a des DUP.
Alors, ce combat contre ce projet aéroportuaire, pourquoi tu es dedans?
Bah, d'abord, c'est un projet qui est aberrant. La première chose, c'est ça, parce qu'on veut souvent nous inclure, nous mettre dans un combat de riverains, et on ne veut pas de ça chez nous. Nous, on a tout le temps dit, dès le départ, et nous, notamment au point de vue agricole, parce que moi, je suis plus cette partie-là, ni ici, ni ailleurs. Il n'y a pas besoin d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, il y en a déjà assez en France comme ça, donc c'est pas la peine d'en recréer d'autres. Il y en a déjà un Nantes Atlantique qui est loin d'être saturé. Il y en a à Lorient, il y en a à Brest, il y en a à Ancenis qui est plus petit, il y en a à Angers où il n'y a pas d'avion. Voilà, on s'est dit, c'est pourquoi recréer, redétruire 2000 hectares de terres agricoles, quoi.
Ah, c'est 2000 hectares, donc ça concerne combien d'exploitations sur le secteur?
Alors, la déclaration d'utilité publique, c'est 1650 hectares. Mais donc, c'est ce que le préfet a réservé. Maintenant, le conseil général s'est réservé en plus 150 hectares pour faire une ZID, zone d'intérêt départemental. Et les communautés de communes environnantes ont aussi réservé des centaines d'hectares. Donc, quand on dit 2000 hectares qui partent de l'agriculture, on est bien dans les clous, quoi.
Alors ici, c'est du bocage.
Ah, c'est une zone de
Il y a
bocage,
combien
oui.
d'exploitations concernées?
Alors, pendant l'enquête publique, on avait été 80 tracteurs à Nantes pour emmener notre contribution, la contribution des agriculteurs. Et ce jour-là, on avait fait le recensement justement des agriculteurs. Il y a 68 agriculteurs qui avaient au moins une parcelle dans la ZAD. Il y en a 15 qui étaient très fortement touchés et 10 qui étaient complètement touchés, donc, comme nous, qui, ça veut dire que plus de 35% de la surface. Ou les bâtiments, ou le siège d'exploitation, la maison qui serait détruite dans ce projet.
Donc là, Sylvain, toi, bah pour le coup, tu es quand même un riverain et tu es en plein milieu de la piste, la future piste.
On n'est même pas riverain parce qu'on est sous une piste là. Je ne sais pas si vous voyez le site ici, le local, c'est le local de résistance qui s'appelle La Vacherie. C'est un peu un petit rappel sur le Larzac. Et bah, La Vacherie, elle est complètement sous une piste. Et une piste, on nous dit, elle fera 60 mètres de large et 100 mètres autour de chaque côté. Il faut que ce soit nu, de façon à ce que si un avion a des problèmes, eh bien, il puisse se dégager, quoi. Donc, ça veut dire que le village des Domaines, où on habite, où je suis né, où ça fait 5 générations de Fresno qu'on est là, eh bien, il sera rasé, quoi. Quand on dit rasé, c'est rasé, quoi. Alors, c'est plus un combat de riverain, c'est un combat de personnel. C'est pas à dire, je veux pas de ça chez moi parce que. Parce que ça va m'impacter moi, mais faut voir plus loin que ça, quoi. C'est détruire 2000 hectares de terres agricoles et les impacts qui sont tout autour, c'est énorme, quoi. Pour bien s'en rendre compte, notre association, c'est l'ADECA, l'association de défense des exploitants concernés par l'aéroport. On avait été à Lyon, parce qu'à Lyon, au départ, c'était un projet comme Lyon, quoi, avec deux pistes et puis un gros truc. Donc, on s'est dit, on va aller voir les agriculteurs de Lyon, quoi. D'abord, pour trouver un élevage laitier là-bas, c'était pas évident parce qu'il y en avait qu'un dans tout le canton. Donc, il nous a reçus et très aimablement et en plus, il était conseiller municipal et on a une bonne relation avec cette personne-là. Et il nous disait, bah, depuis qu'il y a l'aéroport, bah, tous les ans, on grignote un peu, quoi. Parce qu'il y a eu un premier contournement. Faut tourner autour de l'aéroport. Et puis là, il était à faire le deuxième contournement avec des voies d'accès supplémentaires et tout. Il dit, la surface agricole se diminue en peau de chagrin, quoi. Et Lyon, ce n'est pas le bocage de Notre-Dame. Là, c'est le bocage, on parle souvent du bocage de Notre-Dame. Alors, le fait d'avoir une ZAD pendant 30 ans, eh bien, ça a protégé le bocage. On s'est adapté à ce climat-là et ce lieu-là. Et donc, on a fait beaucoup de. Mais même avant, nos parents faisaient beaucoup d'animaux, de bovins. Et on est là maintenant dans le bassin laitier du département. C'est-à-dire que dans tout le département, c'est là que la concentration de lait est le plus importante à l'hectare. On dit souvent que c'est pas la Beauce, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est pas la Beauce, c'est pas des terres à céréales, quoi. Par contre, c'est des terres qui conviennent très bien à l'élevage.
C'est une zone humide aussi.
En plus, c'est une zone humide. On vient de découvrir que c'est une zone humide. Pas nous, éleveurs, qui connaissons le terrain depuis longtemps, mais les porteurs de projet, avec le cabinet d'études, ils ont fait des trous à la tarière, et quand il y a une présence d'oxyde de fer, oxyde ferreux ou ferrique, je ne sais pas, et de rouille, c'est en zone humide. Et pour eux, c'était un scoop, on est à 99% en zone humide. Mais on sait bien qu'on est en zone humide. Et on l'a tout le temps dit, on n'est pas dans Beauce, là, on n'est pas. C'est des cultures qui conviennent très bien, c'est des cultures fourragères qu'on fait. Le maïs, en silage, vient très bien, et l'herbe. Et on fait beaucoup d'herbes, on fait énormément d'herbes.
Qu'est-ce qui fait que ce projet né en 1970, au moment du Concorde, etc., renaît début des années 2000 et qui tient toujours malgré l'opposition qui est de plus en plus forte? Je crois qu'il y a 15 000 pétitionnaires à peu près qui se sont au moins déclarés contre cet aéroport.
Oui, voilà. Dans les années 70, que vous disiez, c'est Michel Chauty, donc sénateur-maire de Saint-Herblain, avec député, je ne vais plus me rappeler de son nom, ou sénateur même, peut-être bien, de la Presqu'île, le baron l'appelait. Il était baron aussi, c'est pour ça que c'est. Et en revenant des États-Unis, en voyage aux États-Unis, on dit, oh, faut faire un aéroport comme ça, comme New York, je crois. C'est un grand. Michel Tarrin serait plus au courant que moi sur ces dossiers-là. Et en venant, il faut faire un giga, méga aéroport dans l'Ouest parce qu'on en a besoin et ce sera le pont sur le Concorde pour le Concorde. Le Concorde, c'était un avion supersonique et le mur du son ne peut pas être passé sur des terres parce que ça fait exploser tous les carreaux et tout. Donc le mur du son serait passé sur la mer. Et donc en partant de Notre-Dame-des-Landes, il monterait en puissance et puis il pourrait passer donc le mur du son sur la mer. Et c'est l'idée de départ, c'était ça. Bon, on a vu ce que ça donnait le Concorde. Malheureusement, il est tombé à Gonesse. Mais même avant de tomber à Gonesse, c'était quand même une catastrophe économique. Le Concorde, ça n'a jamais tenu la route. Et donc, en 2000, Lionel Jospin a relancé le dossier, sous l'impulsion de Jean-Marc Ayrault. Parce qu'un des gros porteurs de projet, quand même, sinon le plus gros, c'est Jean-Marc Ayrault. Donc, il a relancé le dossier, qui était en somnolence. Hein. On en parlait de temps en temps aux élections, mais on a continué à faire construire. On a eu des permis de construire. Hein. Moi, je me suis installé en 84, on a refait une stabulation, on a permis de construire, on a tout ce qu'il faut.
Donc, en 70, quand le projet est né, là, vous êtes un gamin, quoi.
Ah, ben, je suis un gamin en 70, j'ai 8 ans. Donc, moi, je suis pas encore militant. Sinon que je vais aider papa ou quand il y avait des manifs déjà, qui lui était assez volontaire pour défendre les agriculteurs, pour installer des jeunes, pour dire non, faut pas que ça crève, parce que l'idée de départ, c'était de faire mourir le secteur. En disant, on gèle pendant 20 ans, et comme ça, il n'y aura plus de jeunes qui s'installent, et les gens qui sont en place actuellement seront en retraite, et il n'y aura plus qu'à bétonner, quoi. Pas de peau, dans les années 80, on est tout un paquet de jeunes, on était jeunes en ce temps-là, on y est un peu moins maintenant, mais dans les années 80, on a repris après nos parents, et là c'était un peu un flou juridique, un flou, j'allais dire artistique, certainement pas, mais un flou, donc on a pu en profiter de s'installer, on a fait nos bâtiments, on a restructuré les exploitations, on a vécu, quoi, et puis on a des capacités d'exploitation j'arrive pas à trouver le terme, mais une structure d'exploitation qui sont bien dans la mesure où on est dans la ZAD et qu'on s'est entre voisins, on n'allait pas se tirer dans les pattes, donc on s'est dit toi tu prends plutôt celle-là, moi celle-là, puis on s'arrange, on inverse et tout. Donc on a une structure d'exploitation qui un parcellaire qui est super bien organisé, dans lequel on peut faire pâturer les animaux, c'est quand même ce qui coûte le moins cher. On a réussi à avoir un volume de production par exploitation très important. Dans les années 2000, quand on a refait un peu l'état des lieux, c'est à Notre-Dame-des-Landes, dans le secteur proche, où on avait l'âge moyen des exploitations était plus jeune que le reste du département. On avait plus de lait par exploitation et on était mieux structuré, dans la mesure où on arrivait à s'arranger entre voisins. Et donc ça, c'est d'une force. Et à partir de là, bah, c'est plus facile de travailler et on a des conditions de travail qui sont intéressantes, quoi.
Tout à l'heure, tu disais la vacherie en référence à la bergerie dans le Larzac. C'est quoi les incohérences entre votre combat là, aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes et celui du Larzac à l'époque contre l'installation, l'agrandissement d'un camp militaire? Qu'est-ce qui se ressemble,
Encore une fois, c'est consommer de l'espace agricole pour des choses qu'il n'y a pas besoin. C'était le Larzac, c'était pour un camp militaire, oui. Je sais plus, c'était des milliers d'hectares aussi. Pour le camp militaire, c'est une aberration. Tout comme c'est une aberration aussi à Notre-Dame-des-Landes, quoi. Dans une zone de bocage, et ça on nous l'a tout le temps dit, ouais, on n'a jamais fait d'aéroport dans une zone de bocage, mais on va apprendre, vous ne tracassez pas, c'est pas un problème. C'est pas... Si, c'est un problème quand même. Parce qu'on a un milieu naturel qu'on a préservé, dans lequel on arrive à vivre et qu'on vit correctement, et on voudrait détruire ça sous prétexte qu'il faut faire un aéroport, alors qu'il y en a bien assez. C'est surtout ça, quoi. C'est pas... Et on veut pas le coller autre part. On veut pas dire, bah, faut le faire à Rennes ou faut le faire... Non, certainement pas. Il y a un aéroport à Rennes aussi, j'avais oublié de le dire. Donc vraiment, dans le maillage proche, il y a assez d'aéroports, il n'y a pas besoin de détruire 2000 hectares de terres agricoles.
Et ce combat-là, ici, à Notre-Dame-des-Landes et alentour, hein, ça a été fédérateur, justement, entre les gens. Ça a créé une...
Alors, depuis.
Entre vous.
Dans les années 2000, 2004, qu'il y a eu le débat public, les gens sont venus militants. Non, ça ne se fera pas, on n'en veut pas. Et quand les gens ont vu comment se passait un débat public, c'est une grand-messe, les porteurs de projets, ils disaient ça sera comme ça et comme ça, il n'y a pas à discuter. Alors, nous, on a porté des arguments et tout. Non, c'est irrecevable, mais sans argumentaire, sans. Nous, on argumentait, mais eux, non, nous, on a la science infuse, donc voilà, c'est comme ça que ça se passait. Ça dégoûtait énormément de gens. Alors, soit les gens sont venus avec nous, se radicalisés en disant, ils se foutent de nous, donc il ne faut pas de cet aéroport. Soit d'autres ont dit, c'est trop fort, on est trop petit localement, donc on n'arrivera pas à se défendre, donc ils vont le faire, et puis tant pis pour nous, quoi. Donc, il y a eu deux phases. Et c'est resté comme ça. Il y a des gens qui sont pros. Les pros, on les entend pas beaucoup, quoi. C'est pas. Peut-être qu'entre eux, ils en discutent, mais moi, je sais pas. Forcément, si on se doute qui est pour, qui est contre, mais localement, les contres s'affichent et on s'affiche clairement et c'est marqué sur notre tête et sur. On a des slogans, là je l'ai pas, mais on a des pins, on s'affiche clairement. Par contre, les pros s'affichent pas du tout, quoi. Et font des fois des actions, c'est rare, mais non signées, quoi. Alors que nous, toutes les actions qu'on fait, toutes les manifestations, tout ça, c'est à visage découvert, et on signe notre acte, tout est... Nous, on est à visage découvert, quoi.
Quand on est dans un combat comme ça, on a des pressions. Comment on vit les pressions extérieures? Parce que l'État, Vinci, c'est pas rien.
L'État Vinci, c'est pas rien, c'est des pressions sur notre élevage, c'est des pressions sur notre personne, sur nos enfants, et ça, c'est pas neutre. On a eu, en 5 ans, on a eu un contrôle sanitaire par an. Et quand la DSV, avec les contrôles, mais les plus durs des contrôles, quoi, parce qu'il y a plusieurs types de contrôles, et nous, à chaque fois, on avait les plus complets. Si bien qu'à la fin, la DSV, la Direction des Services Vétérinaires, disait « Bon, ça commence à bien faire, votre élevage, on le connaît par cœur, on sait qu'il est propre, il y a quelqu'un qui vous en veut, parce que c'est sur dénonciation, mais ça commence à bien faire. On va faire un courrier au préfet pour dire qu'il arrête de nous envoyer chez vous, quoi. » Et là, depuis 2 ans, on n'a plus de contrôle. Mais ça va revenir, parce que ça fait 2 ans, donc on va avoir des contrôles. On nous a supprimé les ZPAC, alors qu'on est clair, on fait faire nos dossiers par un comptable qui est... pour pas faire d'erreur, et donc on paye un comptable pour faire le dossier, pour que ce soit bien propre, et on a des contrôles PAC régulièrement tous les ans, et c'est on n'a jamais d'embêtement, et ça fait 2 ans, juste avant Noël, la préfecture nous envoie un courrier en disant nos aides PAC tous supprimés. Et donc on a essayé d'appeler la préfecture pour savoir d'où ça venait. Ah non, les services sont fermés, donc on a pu appeler que le 3 janvier. Et le 3 janvier, ah non, c'est une erreur, c'est une erreur, ben voilà. Sans excuse, sans rien, quoi. C'est vraiment une pression supplémentaire qu'on nous a collée, ça, on le sait bien.
Comment on vit ça, là, justement, quand même, au quotidien? Parce que, on n'a pas choisi là, cette militance au quotidien, parce que ça revient à ça, vous êtes militant finalement au quotidien.
À tous les jours.
Vous avez un pied le matin en sortant du lit, il y a toujours cette question d'aéroport qui est là, et en même temps il y a une exploitation, et j'imagine une famille, et puis de temps en temps il faut penser à autre chose certainement, donc comment on vit comme ça
Eh bien, on a intérêt de souder au niveau du couple déjà, et après au niveau de l'exploitation, et on s'est plus ou moins réparti les tâches, enfin c'est venu comme ça, c'est plutôt moi qui va aux réunions et qui défend le combat au niveau agricole. D'abord je suis président de la DECA aussi, donc ça m'oblige aussi à aller à certaines réunions, certaines rencontres, et mes associés, à savoir un voisin, Bruno, et puis ma femme, eux restent plus sur l'exploitation. D'abord, Bruno, c'est pas un grand orateur, et il veut bien faire, s'il y a une manif, il veut bien venir en tracteur, pas de problème, mais c'est pas lui qui prendra la parole, il aime pas ça, et c'est pas inné, mais on arrive à se construire quand même, à parler devant les gens, devant les caméras, on arrive maintenant à mieux se contrôler. Mais lui, il aime pas du tout ça, donc on s'est un peu réparti les tâches comme ça, quoi. Maintenant, c'est beaucoup d'explications entre nous. Voilà, j'étais là, il y a ça qui a été dit, il y a ça et ça. Il faut aussi que je fasse un rapport, entre parenthèses, à mes associés, quoi. Et Brigitte, elle, ma femme, donc, essaie de préserver la vie de famille avec les enfants et les petits-enfants pour que ça ne leur impacte pas trop non plus, parce qu'on pourrait en parler tous les jours, matin, midi et soir. On a tout le temps une raison d'en parler, quoi.
Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez gamin au moment où le projet était lancé en 70, mais c'est quasiment le combat de votre vie, là.
Ah ouais, je crois que c'est le combat de notre vie. Et si on le gagne, ce sera un combat super intéressant. Si on le perd, j'espère pas. De toute façon, c'est un combat qui aura été formateur pour moi. Parce que ça permet de rencontrer des gens, ça permet de se dépasser. Quand on nous envoie, bon allez Sylvain, tu vas défendre l'agriculture à la Cité des Congrès à Nantes, 2000 personnes, allez va, tu prends le micro et tu causes devant les gens là. Moi, je ne m'appelle pas Jean-Marc Ayrault ou je ne sais plus, je ne sais pas qui, mais ça prend les tripes. Hein. Je veux vous dire qu'avant, je ne dormais pas bien. Hein. Maintenant, c'est moins dur. Je ne veux pas dire plus facile parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. On a tout le temps un doute d'oublier, de se gourer. Mais maintenant, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça et c'est moins stressant. Quoi. J'ai moins le stress de ça. On en a d'autres, mais...
Alors, au départ, là, on a bien compris que c'est quand même un combat qui s'organise localement. Depuis, il a largement prospéré autour, et notamment auprès des politiques, notamment, et d'autres associations aussi. Comment se fait la greffe entre un combat mené par des agriculteurs, leurs terres, leurs exploitations sont menacées, ils sont contre l'aéroport, ni ici, ni ailleurs, donc on est au-delà du phénomène Nimby. Comment se fait la greffe, enfin.
Alors la greffe au niveau des agriculteurs, ça a commencé en 2009 pendant le camp Action Climat. C'était chez nous, dans notre exploitation. On a accepté qu'un camp Action Climat autogéré s'installe sur dans un de nos champs, quoi. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi la semaine de résistance organisée par la coordination. Il faut dire quand même qu'il y a une coordination des associations et mouvements politiques qui s'opposent au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui regroupe une quarantaine d'assos ou de mouvements politiques. Et c'est au tout départ, quand on a fait la semaine de résistance, c'était plus les locaux qui organisaient, à savoir la CIPA, la DECA, vraiment les locaux, quoi. Et l'été dernier, on a voulu un peu extérioriser, puis on a besoin un peu de souffler, nous, les locaux, parce qu'on prenait du volume et on commençait un peu à saturer et à ne plus savoir faire. Donc on a demandé à des mouvements politiques nationaux de venir gérer aussi les 3 jours de résistance qu'on a fait l'été dernier, quoi. Et ça a été un succès phénoménal. Dans leur réseau, ils ont ramené des gens compétents dans chaque domaine, dans chaque... Et on a vu, on était 15 000, il y a eu 15 000 personnes qui se sont passées pendant les 3 jours au lieu dit La Porclay, parce que tous les gens changent de secteur pour faire connaître aux gens qui viennent les différents secteurs, quoi. Il y a eu 15 000 personnes qui sont venues, il y a eu des mouvements politiques, il y a des écologistes, Eva Joly, et puis c'est même, malheureusement pour lui, Nicolas Hulot est venu, et puis il est reparti assez vite, mais... Voilà, on a eu Poutou aussi qui est venu, là, des partis de gauche, on a eu des gens comme ça, quoi. Donc, depuis le camp Action Climat et puis l'été dernier, on voit qu'on prend une ampleur nationale. Complètement, on en parle au niveau national. Et en plus, on a fait la tracte vélo très récemment, là, c'était au mois de novembre, début novembre. Et là, on a eu un aura médiatique très important.
Quoi. C'est quoi la tracte au vélo? Comment ça s'est passé?
Alors, la tracte au vélo, c'était. L'idée est née, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, quand, pendant les élections régionales, dans lesquelles on s'est dit qu'il faudrait aller rencontrer nos conseillers régionaux dans dans les régions des Pays de Loire, quoi, et même en Bretagne, pour leur faire mieux connaître le problématique Notre-Dame-des-Landes. Alors, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, un jour, il faudrait y aller en vélo, ouais, mais ça serait bien d'avoir des tracteurs et tout. On s'est dit, pourquoi pas les deux? Donc, il y a 6-7 tracteurs, et puis 40, 50, 60 vélos, quoi. Et on part pendant une semaine, avec des étapes régionales. Alors, quand c'était la régionale, donc on était à Rennes, à Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Nantes, avec une grande manifestation à Nantes. Et là, récemment, on est monté à Paris. On s'est dit, c'est la capitale, mais on va bien y arriver, y aller quand même. En fait, il n'y a pas plus de kilomètres que de faire la régionale. Et donc, on est parti le 6 novembre et on est arrivé à Paris le lendemain du 11 novembre, donc le 12, avec une grande manifestation nationale, qu'on a voulu nationale. Et c'est là qu'on a fait activer tous les réseaux des mouvements et associations politiques ça a abondé beaucoup, quand on était 5000 personnes à Paris. Les tracteurs sont rentrés dans Paris, c'est pour les loups, c'est les tracteurs. Les vélos, et il y a même des animaux qui sont venus, il y a deux vaches et deux chèvres qui sont venus dans la manifestation. Donc les Parisiens sont un peu surpris et la presse nationale a beaucoup relaté cet événement-là et qui nous a fait beaucoup de bien.
Ça devait être quelque chose quand même, assez poignant, non?
Ah, c'est assez poignant, je peux vous dire, surtout que le mercredi, on n'avait plus le droit de rentrer, de faire la manifestation, et encore moins d'aller avec les tracteurs devant le Sénat parce que c'était interdit. Et on s'est levé très tôt le matin avant le chant du coq. Et on a réussi à emmener les tracteurs devant le Sénat et on les a stationnés là. Et on a attendu la manif qui venait à 10h. Donc on n'avait pas le droit d'emmener les tracteurs, mais on l'a fait quand même. On a pris de gauche et puis on a réussi à emmener les tracteurs, les animaux, et on a fait notre manifestation.
Avec un beau succès.
Ah là, c'était un super succès. Là on est super. On est revenu gonflé, euphorique, parce qu'il faut bien aussi de temps en temps qu'on ait des moments de victoire. Et ces moments de victoire, il faut qu'on en profite. Parce que pas longtemps après, il y avait un article sur les canards locaux en nous cassant et en disant c'est fait. Et voilà. Vinci reprend la main, quoi. D'office, où les porteurs de projet reprennent la main systématiquement. Dès qu'on fait un article sur une victoire, entre parenthèses, de notre côté, eh bien, le lendemain, il y a un article dans les journaux, les quotidiens locaux, quoi, même nationaux.
Là, on approche des fêtes de Noël, et tu me disais tout à l'heure que vous étiez clairement menacé d'expulsion
Alors,
pas d'expulsion directe, mais au moins d'avoir la...
Le 13 novembre dernier, on a eu le préfet a déclaré la zone de cessibilité. C'est-à-dire que les terrains qui sont dans cette surface-là, qui représentent à peu près la DUP, les terrains qui sont dedans, il y a eu un état des lieux, à qui appartenaient ces terrains-là, qui les exploitait, si c'est des terres agricoles, et de façon à pouvoir faire la procédure d'expropriation après. Donc on a été au tribunal administratif pour refuter cet arrêté de cessibilité. On a été débouté sur l'urgence d'arrêter. En fait, il y avait deux requêtes dans notre recours. Le fait de que ce soit suspensif, notre recours soit suspensif, et le fait qu'une requête sur le fond, quoi. Après, pourquoi avoir fait ça et que ce n'était pas compatible avec l'état actuel des finances, et il y avait 12 arguments, là, je ne vais pas vous les sortir là. On a été débouté sur le fait d'arrêter maintenant, donc ça veut dire que la procédure continue quand même, mais sur le fond, il y a toujours enquête, quoi. Et là, c'est remonté au Conseil d'État. Et dans la mesure où le préfet a décrété l'arrêté de cessibilité, il y a un délai de 6 mois qui court avant l'arrêté d'expropriation. Sinon, il faut tout recommencer. Donc ça m'étonnerait que le préfet va passer à côté, quoi. Donc, maximum le 13 mars prochain, on a l'avis d'expulsion de nos terrains, de nos maisons, de tout, quoi.
Et alors là, comment vous...
Et on en est là.
Comment ça...
Ça prendra encore un peu plus aux tripes, mais les tripes sont tellement tordues et puis commencent à être résistantes. Donc, on va durer aussi. Et puis, on a un combat quand même qui est les législatives et les élections présidentielles.
Alors, votre mouvement, justement, il est, vous le dites sur votre site, il est apolitique. Et puis, en même temps, c'est politique au sens large du terme, le combat contre cet aéroport.
Oui, on a trois piliers pour notre combat. Il y a le pilier associatif, on fait des manifs, on fait la tracte au vélo, on fait des festivals, des choses comme ça. Il y a le pilier juridique, parce que là, on n'a pas tout dévoilé en juridique, mais on est rendu au Conseil européen des droits de l'homme. Et là, on a été accepté au niveau de l'Europe, donc c'est pas neutre. Et on a d'autres arguments qu'on ne veut pas dévoiler non plus au public, parce que c'est des arguments de fond. Et puis le combat politique. Et le combat politique, eh bien, on accepte qui veut combattre ce projet. Alors, on parle souvent des écologistes, mais il y a aussi les partis de gauche, il y a aussi François Bayrou, enfin le Modem, il y a aussi des partis moins en vue, mais qui nous ont aussi soutenus, quoi. Donc, on n'est pas forcément filié à Europe Écologie ou à Poutou, mais pas plus à Bayrou, non, mais c'est à tout le monde, quoi. Et chacun des militants peut se retrouver dans l'un ou l'autre des partis, quoi. On combat les gens qui veulent faire l'aéroport, à savoir l'UMP et le PS.
Comment ça va se passer, là, justement, dans la campagne présidentielle? C'est pas rien. On parlait tout à l'heure du Larzac, un combat extraordinaire, hein, les militants, mais en même temps, c'est l'élection au final de François Mitterrand et sa décision d'abandonner l'agrandissement du camp, mais qui a donné satisfaction combat mené dans le Larzac. Donc, ici, comment vous avez mené votre combat durant la présidentielle?
Eh bien, en sollicitant les différents candidats déjà pour savoir quelle est leur position exacte. Et après, les négociations entre partis risquent d'être assez tendues. Déjà, on a vu que Eva Joly sur le nucléaire s'est retirée, mais il y a le nucléaire et Notre-Dame-des-Landes. C'est bien lié, les deux sont liés. Et le Joie nous a fait un clin d'œil, je ne vous ai pas remarqué, mais dans notre combat, on dit « Je ne céderai rien ». Une chanson, c'est « Je ne céderai rien ». Et l'autre jour, dans son intervention, elle a dit « Je ne céderai rien ». Donc, pour moi, c'était un petit clin d'œil au combat de Notre-Dame, quoi. Alors, il y a ça, mais il y en a certainement d'autres aussi. On va mettre la pression tout le temps. Hier, François Hollande était à Nantes. Il y a eu une manifestation devant à plusieurs sympathisants avec des banderoles, non, un aéroport de Notre-Dame. À chaque fois, il y a des actions, pas forcément spectaculaires, en allant tout bousculer et tout, parce qu'ils ont un service d'ordre qui est plus costaud que le nôtre. Mais en leur rappelant chaque fois qu'on est là, qu'on est là, qu'on est là. Et après, peut-être que ce sera la variable d'ajustement, de négociation entre les deux toits.
Vous n'avez pas été trop déçu, justement, au moment de l'accord PERPS, moins inquiet, parce qu'il y a eu cette question du nucléaire absolument centrale, hein, dans la discussion, et quand même un certain recul des Verts, d'Europe Écologie, sur la question, enfin, par rapport à ce qui était affirmé.
Je peux vous dire, j'ai entendu ça, j'étais à la traite et bah, de colère, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé José Bové. J'ai dit, c'est quoi le plan là? Qu'est-ce que vous nous faites là? Vous nous faites un petit dans le dos tout. Donc il m'a expliqué qu'en fait, c'était sorti du contexte parce qu'autrement, ça n'aurait pas avancé. J'ai dit, on a été une demi-heure à discuter. Hein. Il a vu que j'étais pas de bonne humeur, mais bon, il a compris parce que d'abord, même s'il n'aurait pas compris, c'est pareil, hein, ça ferait un plus. Hein. Mais. C'est remonté assez haut après parce que dans une rencontre en coordination, il dit, bah, t'as appelé José toi l'autre jour, il paraît que tu n'étais pas content. Donc c'est pas grave, c'est vrai que j'étais pas content, quoi, et j'étais pas le seul. Mais voilà, quelle sera la suite des événements, voilà, on en est là. Rien n'est décidé pour l'instant. Puis je vous dis, il y aura des négociations et ça peut être une variable d'ajustement, ce projet de Notre-Dame.
Alors votre combat, il est aussi... pacifique, vous utilisez des méthodes pacifiques.
Ah ouais.
On sait qu'aussi dans le Larzac, pour passer sur la comparaison, ça a été aussi le fond, la fibre de ce combat, entre guillemets, pour le coup. En même temps, il faut toujours contenir la violence possible dans ce genre de contestation. On sait qu'il y a déjà eu des dérapages et tout. Comment on vit ça à l'intérieur du mouvement, de l'organisation?
Je vous disais qu'il y a des gens qui sont plus autonomes, qui font des actions, eux, qui veulent spectaculaires ou médiatiques ou violentes, parce qu'on nous critique des fois de ne pas être assez virulents, sans parler d'être violent, mais virulent. Après, chacun s'assume, c'est tout. Nous, on n'a pas les condamner, on n'a pas les défendre. Voilà. Après, s'ils se font prendre ou si ils vont au tribunal, et ben voilà, ils s'assument. Et puis voilà quoi. Mais moi, je les condamnerai pas. Mais je n'irai pas non plus au tribunal.
Mais entre vous, dans les coordinations, tout le monde reste bien, bien solidaire quand il y a des événements comme ça, enfin, qui viennent un peu perturber peut-être la ligne de combat que vous avez choisie, quoi.
Non, je crois que c'est la coordination est un lieu d'échange. On n'est pas tous d'accord, mais que ce soit pour n'importe quelle décision. Mais dans l'ensemble, oui, il y a une ligne de conduite qui est respectée. Hein, je vous dis, c'est des gens qui ne font pas partie de la coordination. Donc chacun, et mouvement politique ou association, peut prendre parti pour eux ou pas, mais pas au nom de la coordination. Donc voilà, c'est à partir de là, on est clair, quoi. C'est pas des gens soutenus par la coordination. Il y a des actions qui sont soutenues par la coordination, comme le tracto-vélo, comme des manifs sur Nantes, comme plein de choses. Et là, on en appelle, la coordination appelle à aller ou manifester ou autre. Et la coordination s'assume. Mais quand il y a des actions plus vigoureuses, et que ce n'est pas soutenu par la coordination, les gens s'assument. Point ligne. Et c'est assez clair.
Il y a aussi, c'est quand même un combat avec de multiples tensions, elles sont aussi individuelles, donc il n'y a pas que le réceptacle collectif. Et comment ça tient dans une coordination comme ça, enfin, il y a du cul, c'est ça que je veux dire. On va avoir les expulsions, donc il peut y avoir des réactions différentes. Il y a la discussion, tout le monde va se mettre d'accord au final, mais bon, comment on vit ça? C'est pas trop perturbant
C'est pas simple à vivre, surtout que peu de gens l'ont vécu sans doute à ce niveau-là, au niveau du volume. Des expulsions, il y en a eu malheureusement un peu partout. Mais là, c'est beaucoup, on est beaucoup, on serait beaucoup à être expulsés. Et ça regarde chacun. Et ce qu'on disait à notre Assemblée Générale de l'ADK l'autre jour, c'est que chacun on comprend la situation de chacun. S'il y en a qui veulent dire, ben moi, je jette l'éponge, j'en peux plus de me battre, et je demande les indemnités, puis je m'en vais, on les comprend complètement. Parce que la pression, faut la vivre pour la comprendre, quoi. Donc on les comprend complètement. Et on soutiendra tous les gens, y compris ceux qui voudront s'en aller plus vite, ceux qui voudront tenir le plus longtemps possible et tout. Non, je crois qu'il faut être bien clair là-dessus. Et ça, on a été assez clair à notre Assemblée Générale. Il y a beaucoup de monde. Et je crois que ça rassurait des gens aussi. Dire, bah ouais, mais moi j'ai rencontré Vinci, sans parler de négocier, parce que j'ai un mot que j'aime pas du tout. Ça, on négocie pas une ferme, ça se négocie pas. Mais j'ai discuté avec Vinci ou avec AGO et... non, mais t'as complètement le droit. Après, tu te fais ton opinion, t'es d'accord ou pas d'accord, et puis si tu t'en vas, tu t'en vas. Mais au moins, il sera battu, les gens se seront battus jusqu'au bout, quoi. Et le jusqu'au bout, il n'est pas la même limite pour tout le monde.
Et comment Vinci, vous les rencontrez ici, ils viennent
Ils l'ont demandé plusieurs fois à nous rencontrer.
Ils sont plutôt envahissants.
Pour certains. Avec moi, ça va, parce qu'ils nous ont demandé de nous rencontrer plusieurs fois, notamment l'ADK. Donc on avait dit, ici, ok, on fait à la vacherie, on veut vous rencontrer. On est d'accord de vous rencontrer, c'est pas on veut, on est d'accord de vous rencontrer. Ah oui, je peux revenir la semaine prochaine, je peux... Non, on n'a pas... Ça y est, on vous a rencontré, on sait qui vous êtes, point la ligne, c'est pas la peine de... Alors je sais, certains agriculteurs, ils vont régulièrement, tous les deux ou trois jours, alors qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce que tu deviens et tout. Moi, je n'ai pas ces emmerdes-là, j'ai envoyé peut-être dès le premier jour et puis il n'y a pas de... On est clair.
Et vous arrivez à discuter avec eux éventuellement, enfin dans d'autres lieux
dans d'autres...
Parce que vous avez travaillé vraiment sur des alternatives aussi.
Dans d'autres lieux, dans la mesure où on est, il y a un comité professionnel agricole qui regroupe la Chambre d'agriculture, tous les syndicats, l'ADK, la SAFER, et puis voilà. Et donc, on en fait partie, j'en fais partie, et c'est pour ça qu'on les côtoie régulièrement, mais c'est à la Chambre d'agriculture, c'est sur un terrain neutre, quoi. Je peux vous dire, Vinci n'a jamais mis les pieds à la maison chez nous, hein, ni sur la ferme. Et c'est pas manque de vouloir, hein, c'est des coups de fil, c'est... Non, on ne veut pas vous rencontrer, c'est pas la peine. Donc ça les embête, mais nous aussi. Non pas de les rencontrer, mais qui nous appellent tout le temps.
Et des politiques comme justement Jean-Marc Ayrault, le député maire de Nantes, il fait le chemin en balade le dimanche ou...
Alors Jean-Marc Ayrault, quand François Bayrou était venu, c'était en hiver comme à la saison là, et on lui avait prêté des bottes, c'était prévu comme ça, il n'allait pas venir avec des bottes de chez lui là-bas, donc on lui avait prêté des bottes, et puis donc on avait fait le tour, la ferme, et on avait discuté, il était venu ici après discuter devant des militants qui étaient là aussi, et le lendemain, je remarquais Rowe, pour reprendre la main, il dit « c'est pas parce qu'on met des bottes qu'on connaît le dossier ». Par contre, on l'a repris aussi au mot en disant « lui, il n'a jamais mis ses bottes pour venir nous rencontrer ». On ne l'a jamais vu ici. Il n'est jamais venu ici. Il a sans doute survolé la zone parce qu'il a d'autres moyens que nous, hein, en hélico ou je ne sais quoi, avec le préfet ou avec des hommes politiques. Certes, sans doute. Mais il n'est jamais venu sur le terrain nous rencontrer. La seule fois qu'on a pu le rencontrer, on était ensemble, Michel, c'était en menaçant de lui bouffer son conseil municipal à Nantes, de lui, pas saccager, mais de lui torpiller son assemblée, son conseil municipal. Il a accepté de nous rencontrer de 18h à 18h30 la veille au soir. Et il nous a écoutés, puis à la fin, il a dit, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à ma personne. Alors, allez faire les manifs que vous voulez sur Nantes, mais ne touchez pas à ma personne. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Au revoir, messieurs, dames. On n'a jamais touché à cette personne. Non, mais c'est ça qu'il nous a dit. Hein. Ça veut dire qu'il a une assez haute valeur de sa personne. Quoi. Oui, mais...
ah. Pourquoi vous, comment ça se fait qu'il maintient à tout prix ce projet, enfin, qu'est-ce que vous voyez au fond là?
Pour lui, c'est viscéral au même titre que c'est viscéral pour nous, je crois. Pour lui, c'est un combat, c'est son combat, enfin, entre autres, il y en a d'autres, mais c'est son bébé, il veut son buste à l'entrée de l'aérogare. C'est une image de dire ça, mais il le veut, cet aéroport, il ira jusqu'au bout. Contre vent et marée, même contre l'opinion publique, il ira parce qu'il le veut. C'est lui qui l'a porté depuis le départ, enfin, depuis Jospin, depuis 2000 que c'est relancé, et il le veut, il ne veut pas céder. Pour lui, c'est un combat politique et personnel surtout. Et je crois que c'est ça. Et c'est pas lui qu'on arrivera à faire céder. Parce qu'il est rendu trop loin dans l'absolu, il en veut absolument. Il peut plus faire marche arrière. Dans son idée, il peut plus faire marche arrière. C'est par d'autres qu'on arrive à le faire rétrograder, mais c'est tout. Lui, on n'arrivera pas à le faire évoluer.
Et d'autres, c'est...
Parti politique, je vous dis encore. François Hollande qui se présente, enfin qui est pressenti pour être le président du PS, enfin le candidat du PS... lui, il a l'expérience en plus d'un aéroport à côté de Brive-la-Gaillarde là-bas, qui est quand même une catastrophe. Mais bon, c'est tout. Mais on en est là. Je crois que, je vous dis, ça peut être le petit truc qui fait pencher d'un côté ou de l'autre, quoi. Entre les deux tours ou négociation, quoi. Ça peut être le petit truc.
Vous pensez encore que Hollande peut basculer là?
Mais oui. Vous savez, s'il est juste en balance, oui, oui. Ah oui, et puis on a toujours confiance, on a toujours espoir. Ouais, toujours espoir, hein, parce que si on n'avait pas espoir depuis 2000, on serait parti. Hein. Et on l'a toujours, non, il y a toujours, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et on continue à exploiter, à travailler et à vivre. Hein.